9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Gilbert Thiel.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez été juge d'instruction pendant 4 décennies, dont 19 ans consacrés à la lutte antiterroriste. Et vous publiez aujourd'hui un livre de 450 pages intitulé « Faites entrer l'acquitté ». Mais il s'agit pour la plupart d'entre eux de criminels qui auraient mérité d'être condamnés. Hein, et vous en ajoutez d'autres qui ont bel et bien été condamnés. Je me demande si l'acquittement, ce n'est pas le cauchemar du juge d'instruction.
Forcément, ou alors c'est avoir une idée un peu réductrice du juge qui serait payé au résultat, le dit résultat consistant en une condamnation. Non, le juge d'instruction est là pour essayer de faire la lumière sur les faits et puis de séparer le bon grain de l'ivraie.
Mais si vous envoyez quelqu'un devant un tribunal, c'est que vous le pensez coupable. Et s'il est acquitté, c'est votre travail qui s'en trouve désavoué, non ? Vous pouvez le prendre mal.
Enfin, c'est une vision un peu journalistique de la chose. Vous savez très bien que les juridictions de jugement jugent au regard des preuves de culpabilité qui y sont rapportées. Le juge d'instruction, lui, lorsqu'il renvoie quelqu'un devant une juridiction correctionnelle ou a fortiori criminelle, c'est parce qu'il estime qu'il existe des charges suffisantes pour le faire juger. C'est un premier tri, en quelque sorte, pour éviter de faire juger des gens qui, manifestement, n'ont rien à voir. Donc, on anticipe une décision d'acquittement ou de relax selon les cas. Mais par contre, il y a des cas où on peut juger vraisemblable, en quelque sorte, que l'auteur qui a été mis en examen est l'auteur des faits, mais il appartient à d'autres de juger, à la juridiction de jugement de statuer, mais cette fois-ci en termes de preuves.
Je comprends mieux. En tout cas, c'est un très bon sujet, hein, les acquittés. Et il y a en effet des acquittés dont on se demande comment ils ont fait. Ils confessent leurs crimes et pourtant ils sont acquittés. Et on se dit par quel miracle. Est-ce que vous avez trouvé l'équation ?
J'en ai trouvé quelques-unes, notamment dans le domaine politique, pour un cas très très célèbre, celui de Ferdinand Valsin et Sterazy, le véritable traître dans l'affaire Dreyfus. En 1899, il va être acquitté par le Conseil de guerre parce que les militaires, sentant que l'affaire tournait mal au regard de leurs affirmations de la culpabilité de Dreyfus, se sont dit, ont été le trouver en disant « mais il va falloir que tu passes devant le Conseil de guerre, ne t'inquiète pas, sur les 12 membres, ils nous sont tous acquis et tu seras acquitté dès le lendemain ». C'est effectivement ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle un acquittement bouclier, parce qu'une fois qu'on a bénéficié d'une décision d'acquittement, on ne peut plus être rejugé une seconde fois pour les mêmes faits, en raison de l'application de la règle non bis in idem, mais en application de l'autorité de la chose jugée.
Dans le cas d'Esterhazy, je rappelle que c'est le véritable auteur du fameux bordereau qui a fait condamner Dreyfus. Or, dans cette affaire, tous les innocents trinquent, Dreyfus, Émile Zola qui prend sa défense, le commandant Picard qui apporte la preuve de son innocence et de la culpabilité d'Esterhazy. Tout le monde est condamné à la prison, sauf Esterhazy, que l'on acquitte alors qu'on sait qu'il est un traître. Et même pour des militaires qui cherchent à se protéger, c'est quand même étonnant. Ils ont un traître devant eux.
Non seulement c'est étonnant, mais c'est scandaleux, mais il faut se reporter pour essayer d'avoir quelques clés de compréhension, mais pas de bénédiction ou d'admission. À l'antisémitisme forcené de l'époque, on est quelques décennies après la défaite française contre la Prusse, et on considère à cette époque, comme chaque état défait, qu'il faut trouver des responsables. Il y a un véritable antisémitisme récurrent, notamment dans l'armée française, et on va décider d'emblée, en quelque sorte, au bout de 3-4 jours d'enquête, que le capitaine Dreyfus allait faire un coupable idéal, sur la base d'une étude graphologique particulièrement contestable et qui avait été menée par un militaire qui s'était en quelque sorte autoproclamé expert dans le domaine de l'expertise en écriture.
Acquitté aussi Louis Grégory, qui tente d'assassiner Dreyfus lors de l'entrée d'Émile Zola au Panthéon. Oui. Encore un acquitté.
Qui reconnaît avoir tiré sur le traître Dreyfus, qui à l'occasion de son procès va essayer de refaire le procès de la révision dont avait bénéficié le capitaine Dreyfus. D'ailleurs, on est bien obligé de constater que prudemment, les politiques qui, dès la mort d'Émile Zola, ça doit être en 1902 si ma mémoire ne me fait point trop défaut, ont attendu prudemment la réhabilitation du capitaine Dreyfus pour que les cendres du romancier soient transférées au Panthéon. Donc, il ouvre le feu à deux reprises sur le capitaine Dreyfus. L'avocat général, à l'occasion du procès d'assises, va prudemment requérir sur la base de violences avec armes, en oubliant la volonté homicide qui caractérisait l'acte violent. Et finalement, ben, on est dans la prolongation de cet antisémitisme et qui imprégnait la société française à cette époque. Et finalement, Louis Grégory, qui reconnaissait être le tireur et qui faisait montre de son antisémitisme encore à l'audience, sera acquitté.
Il y a le cas d'Henriette Caillaux, la femme du ministre et ancien président du Conseil, Joseph Caillaux. Elle en veut au directeur du Figaro, Gaston Calmette, qui mène une campagne contre son mari. Elle achète un revolver, elle vient au Figaro, elle assassine Calmette, elle déclare à la police qu'elle l'a tué pour lui apprendre à vivre, et oui, elle est acquittée.
Oui.
Et elle est acquittée.
Oui. On s'est aperçu après coup que le conseiller Louis Albanel, qui présidait la cour d'assises, était un habitué de la table des Caillaux. Qui plus est, le procureur général venait de bénéficier, à l'occasion de la promotion du 14 juillet, d'une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Quant au ministre de la Justice qui venait d'être nommé, c'était un ami du ministre. Et le ministre avait également recruté un nommé Cecaldi qui faisait venir des truands en Corse à l'audience pour conspuer les témoins à charge et applaudir les témoins à décharge. Et puis l'urne contenant la liste des jurés avait été décellée. On a prétexté une chute dans l'escalier, mais ça avait permis à l'avocat de la défense qui avait eu avant l'heure la liste de ses jurés de faire le tri entre ceux qui votaient ou qui étaient soupçonnés de sympathie radicale, donc de sympathie en faveur du ministre, des autres, et donc le tri avait été fait. Donc c'est un dysfonctionnement complet des règles d'éthique de la procédure pénale.
Il y a beaucoup d'autres cas, on va les évoquer. On fait une pause, Gilbert Thil, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec l'ancien juge d'instruction Gilbert Thil qui publie « Faites entrer l'acquitté ». Alors une acquitté qu'on a oubliée aujourd'hui, hein, c'est l'anarchiste Germaine Berton qui se rend dans les bureaux de l'Action française pour assassiner Charles Maurras ou Léon Daudet et qui, à défaut de les trouver, tue Marius Plateau, le chef des Camelots du roi. Elle reconnaît tout, y compris la préméditation, elle est même fière de son geste et elle est acquittée.
À son grand désespoir, serais-je tenté de dire, car elle voulait acquérir le statut de martyr, donc secrètement, elle devait même espérer avoir une peine d'une particulière sévérité. Son avocat va plaider de manière extrêmement simple, mais extrêmement efficace, en disant « Vous avez bien acquitté en 1919 l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain, vous n'avez qu'à acquitter ma cliente. » Et à la stupéfaction générale et à la stupéfaction propre de l'accusé, elle a été acquittée.
Oui, c'est vrai, le cas de Raoul Villain, hein, l'assassin de Jaurès, vous le racontez également dans ce livre. Alors là, on a regardé des cas un peu politiques, mais il n'y a pas que des cas politiques, évidemment. Hein. Il y a le cas Jean Doga, un ancien communard, devenu gendarme, puis tueur en série. Il a été acquitté deux fois.
Il avait perpétré deux crimes dans le Gers à 10 ans d'intervalle. Et les gendarmes s'étaient dit, mais c'est quand même curieux, dans le secteur de Casaubon où ont lieu les crimes, il ne se passe jamais rien, sauf lorsque Jean Doga est là. Donc il avait été jugé, me semble-t-il, pour ces deux crimes, mais des coïncidences ne font jamais des preuves. Et après cet acquittement, ce double acquittement, il est rentré dans la gendarmerie nationale, il a été affecté dans le coin de Remiremont et
Et là, il est devenu tueur en série.
Il avait gardé quelques réflexes professionnels, c'est-à-dire qu'après avoir perpétré deux doubles meurtres dans la région d'Épinal, il avait jugé plus prudent de changer d'air. Il était venu s'installer à Pont-à-Mousson, une localité entre Metz et Nancy. Et là, comme il avait laissé femme et enfants dans les Vosges, il passait son temps dans les débits de boissons et dans les maisons closes, et il faisait des dettes car il avait un gros budget en la matière. Chaque fois qu'il assassinait, parce qu'il a assassiné à 4 ou 5 reprises par la suite, comme il assassinait pour se procurer de l'argent, des femmes seules ou des couples âgés, eh bien, il allait régler ses dettes chez les taverniers et autres tenanciers de maisons closes. Et c'est un policier parisien qui est venu au secours des forces de gendarmerie et de police locale qui n'arrivaient pas à trouver la solution, qui s'est aperçu que ce Jean Dogal allait toujours régler ses dettes dans les différents établissements après la commission des forfaits qui avaient été relevés, des forfaits criminels, bien évidemment.
Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, elle aussi, elle est acquittée et sous les applaudissements.
Elle est acquittée sous les applaudissements, mais ça, c'est la versatilité du public, en quelque sorte. Celle qui était traitée d'ogresse de la Goutte d'Or est devenue, après, la victime de la justice aux yeux de certains, après son acquittement, qui est due en grande partie aux affrontements entre les experts. On est dans la médecine légale du début des années 1900. On est en 1905 lorsqu'elle va tuer ses neveux et nièce, et elle va bénéficier d'un premier acquittement car les experts vont réussir à semer le doute dans l'esprit des jurés à travers leurs différentes contradictions, à tel point que lorsqu'elle sera une nouvelle fois impliquée dans un assassinat d'un petit garçon, eh bien, sous la pression généralisée, son avocat, Maître Henri Robert, ayant fait nommer les premiers experts qui lui avaient tant servi, elle va bénéficier d'un non-lieu. Et c'est là où on voit que parfois la vie judiciaire est un enfer pavé de bonnes intentions, puisqu'un juge qui s'appelait le juge Bonjean a dit la justice a fait trop de mal à cette pauvre dame Weber, il faut lui trouver un emploi. Et on lui a trouvé un emploi dans un établissement hospitalier pour petits varioliques, où elle a été surprise en flagrant délit de strangulation d'un petit malade. Et elle va finir sa vie à travers différents internements, puisqu'elle finira par être déclarée irresponsable de ses actes, dans le département de la Meuse, où elle va assassiner sa dernière victime, qui est un petit garçon de 8 ou 9 ans, qui était le fils des aubergistes qui l'hébergeaient.
On pourrait vous écouter pendant des heures, Gilbert Thiel, bien que vous nous racontiez uniquement des histoires horribles. Elles sont toutes dans Faites entrer l'acquitté, qui vient de paraître chez Robert Laffont. Merci Gilbert Thiel.
Merci à vous, Frédéric Tadéhi.
Et bon dimanche.